RFI 5h30 à Paris et à Kinshasa 6h30 à Goma. Et c'est l'heure de Nemo en piste. Bonjour Nemo.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
À la une de votre journal, les combats qui continuent dans l'est de la République démocratique du Congo.
Notamment à Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, capitale du Nord Kivu. Hier, une réunion en présence des principaux responsables sécuritaires du pays a eu lieu à Kinshasa, autour du président Félix Tshisekedi. Conseil de sécurité des Nations Unies, également prévu lundi. Vous entendrez la porte-parole de la MONUSCO ainsi que le président angolais João Lourenço, qui assure que son pays va continuer de mettre à profit son expérience au service de la paix sur le continent. Dans ce journal également, une loi qui passe mal en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a signé un texte sur des expropriations sans compensation. Objectif, corriger les inégalités du passé alors que plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les terres sont encore majoritairement détenues par la minorité blanche. Un accord de partenariat stratégique conclu il y a 2 jours entre Mogadiscio et le Caire pour lutter contre le terrorisme en Somalie. Et puis un coup de filet, rare par son ampleur, Interpol annonce le retour en Tanzanie de 116 tortues protégées. La situation extrêmement tendue dans l'est de la République démocratique du Congo, au cœur d'une réunion stratégique du Conseil supérieur de la défense présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Hier, les combats se sont concentrés sur 2 fronts entre l'armée congolaise et ses alliés, opposés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, le premier aux alentours de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, le second au nord de la capitale provinciale du Nord Kivu, vers Kibumba. Et lors de cette réunion en présence des principaux responsables sécuritaires du pays, la mort de Peter Chirimwami, gouverneur militaire de la province, a été évoquée. RFI Kinshasa, Patient Ligodi.
Premier point abordé, les circonstances entourant la mort du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Le président Tshisekedi a rendu hommage à cet officier qui sera élevé à titre posthume au grade de lieutenant-général. Des obsèques nationales seront également organisées. Autre sujet au cœur des discussions, l'efficacité des services de renseignement et le risque d'une infiltration ennemie dans Goma. Sur le terrain, l'urgence est de repousser l'avancée du M23, appuyée par l'armée rwandaise, et de reconquérir les zones perdues, expliquent les sources militaires. Cela sera, selon elle, la seule façon de venger la mort du gouverneur. Le chef de l'État a aussi donné des instructions pour renforcer les troupes en matériel et améliorer leurs conditions de travail afin de maintenir le moral des soldats. Une attention particulière sera portée à la protection des Goma. La capitale du Nord Kivu est actuellement menacée par 2 lignes de front à l'ouest et au nord, à 20 km de la ville. Enfin, le chef de l'État a décidé l'envoi imminent d'une mission de haut niveau au Nord Kivu. Des réunions opérationnelles sont également prévues dans la province pour coordonner et améliorer les efforts militaires. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Autre réunion concernant la situation dans l'est de la RDC, celle-ci est prévue lundi à New York. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, demandée par Kinshasa, relayée par la France. L'inquiétude est donc également de mise au sein de la mission onusienne de stabilisation dans le pays, la MONUSCO. Je vous propose d'écouter sa porte-parole, Kadilo.
Au Nord Kivu, la MONUSCO rapporte que des affrontements violents persistent entre le M23, les forces armées de la République démocratique du Congo et d'autres groupes armés, notamment près de Sake, une ville proche de Goma. Les positions défensives de la MONUSCO et des FRDC déployées et maintenues dans cette zone dans le cadre de l'opération Springbok sont donc sous pression. Le 21 janvier dernier, des combats à Bouemera ont fait au moins 10 morts, entraînant des déplacements massifs dans la province du Sud Kivu, ainsi que vers Goma et Rusayo. Par ailleurs, des échanges de tirs de mortier continuent de menacer les populations déplacées dans les sites autour de Goma et de Sake. Vous savez, il y a environ plus de 2,8 millions de personnes qui ont été déplacées depuis le début de la crise. L'ONU réitère qu'il est impératif que le groupe armé M23 dépose les armes et respecte le cessez-le-feu en place depuis le 4 août. La MONUSCO exhorte également toutes les parties à rester engagées dans le processus de Luanda que nous soutenons.
Un processus de Luanda toujours à l'arrêt depuis notamment l'échec de la tripartite qui devait réunir dans la capitale angolaise à la mi-décembre dernier les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço. Ce dernier, qui présentait ses vœux ce vendredi au corps diplomatique présent à Luanda, a profité de ce moment pour une nouvelle fois appeler à l'apaisement dans la région des Grands Lacs. On écoute João Lourenço.
O executivo angolano continuará L'exécutif angolais continuera de mettre à profit son expérience au service de la paix en Afrique. Il redoublera d'efforts pour trouver des solutions viables aux conflits qui ont empêché le développement de notre continent, comme celui qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. L'objectif est de mettre fin de façon définitive à ce cycle récurrent d'instabilité et de violence qui sévit dans cette région. Nous continuons d'espérer que malgré les derniers développements négatifs dans les environs de Goma, nous arriverons à dépasser les divergences qui persistent et que l'on tournera enfin la page des différends entre la RDC et le Rwanda, clôturant ainsi définitivement un chapitre de l'histoire convulsive de l'Afrique.
Les propos du président angolais João Lourenço recueillis par Amira Swilem. L'Angola qui, je vous le rappelle, dans quelques jours prendra la présidence tournante de l'Union africaine. J'ajoute que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont hier appelé leurs ressortissants à quitter Goma. De leur côté, les Nations Unies estiment à 400 000 le nombre de déplacés dans l'est du pays depuis le 1er janvier de cette année. On revient sur cette situation évidemment tout au long de la matinée. Pauline Azidi sera en direct de Kinshasa dans nos éditions de 5h30 et de 7h en temps universel. La suite de cette édition en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a signé un texte qui fait couler beaucoup d'encre. Une loi sur des expropriations sans compensation. Elle permet à l'État, dans des cas très précis d'intérêt public, de récupérer des terres pour la construction d'écoles ou de logements aux loyers abordables. Objectif de l'ANC, le parti au pouvoir, rétablir une certaine égalité, alors que les terres sont toujours, plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, majoritairement détenues par les Blancs en minorité. Correspondance de Valentin Hugues depuis Johannesburg.
Après 3 siècles de colonisation et plus de 40 ans d'un régime raciste d'apartheid, aujourd'hui la minorité blanche détient encore les 3/4 des terres du pays. Cette loi est alors présentée comme un moyen de corriger les inégalités du passé. Avec cette nouveauté, l'expropriation sans compensation qui cristallise toutes les tensions, la loi précise qu'elle aura lieu uniquement si aucun accord n'est trouvé entre le propriétaire et l'État et devrait concerner essentiellement des terrains inutilisés ou laissés à l'abandon. Reste que ce sujet est hautement politique. Sur cette question de redistribution des terres, l'ANC joue l'équilibriste pour rallier les électeurs sans pour autant effrayer la sphère économique. Parce qu'ici, l'exemple du Zimbabwe est dans toutes les têtes. Ce pays voisin plongé dans une grave crise économique a récemment fait marche arrière en indemnisant les fermiers blancs après un large programme d'expropriation. La porte-parole de l'ANC précise donc que cette loi répond aux besoins de millions de Sud-Africains exclus de la propriété tout en veillant à ce que les droits des propriétaires soient respectés. Certains partis politiques ont déjà annoncé qu'ils contesteront l'application de cette loi. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
RFI, l'actualité du continent africain en bref. En Somalie, l'armée du Puntland, cette région semi-autonome du nord-est du pays, a annoncé avoir pris le contrôle de l'une des bases du groupe État islamique. Dans un communiqué, l'armée du Puntland fait état de la prise du village de Tourmassalé aux mains des djihadistes depuis quelque temps. L'une de leurs plus grandes bases, selon l'un des commandants, qui affirme également que le leader du groupe y vivait ces 2 dernières années. Ces opérations ont été menées sans aucun soutien du gouvernement fédéral somalien, précise le communiqué. La Somalie, où les terroristes Shebab sont bien plus présents que ceux du groupe État islamique, et justement, les autorités somaliennes entendent bien lutter davantage contre ces activités. C'est dans ce contexte que Mogadiscio a conclu jeudi avec le Caire un accord de partenariat stratégique au niveau politique, économique, mais aussi et surtout donc militaire. Une signature au cours de la visite du chef de l'État Hassan Cheikh Mohamoud en Égypte. Alexandre Bouchanti est au Caire pour RFI.
Depuis le mois d'août, ce n'est pas moins de 3000 militaires égyptiens qui ont été envoyés en Somalie. Officiellement, ils participent à l'entraînement des forces somaliennes pour combattre le terrorisme et sécuriser le pays. L'Égypte a aussi fait 3 livraisons d'armes légères à la Somalie. À partir de cette année, les militaires égyptiens doivent être intégrés à la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Du Caire, le président Abdel Fattah el-Sissi a réitéré que la présence militaire égyptienne n'était dirigée contre personne. Rappelons toutefois que l'Égypte et l'Éthiopie, le grand voisin de la Somalie, sont en conflit sur les eaux du Nil suite à la construction d'un barrage par Addis Abeba. Un accord de coopération militaire a aussi été signé en octobre entre l'Égypte et l'Érythrée. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Du neuf dans la guerre civile qui oppose au Soudan depuis le 15 avril 2023 l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Ce vendredi soir, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan dit avoir brisé le siège de son quartier général à Khartoum, encerclé par les hommes du général Emeti depuis le début du conflit. Une opération qui, selon l'armée, a réuni ses troupes positionnées à Bari, au nord de Khartoum, et celles stationnées à Omdurman, ville voisine de la capitale de l'autre côté du Nil, troupes qui ont fusionné aux forces de l'armée postées justement dans le quartier général de l'armée. Et puis c'est une belle prise de la part d'Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle s'est félicitée du retour en Tanzanie, leur pays d'origine, d'une centaine de tortues protégées. 15 trafiquants sévissant dans plusieurs pays ont été arrêtés après plus de 2 ans d'investigation qui ont remené les enquêteurs de la Tanzanie à la Thaïlande en passant par l'Ukraine. Plus de détails avec Simon Rosé.
Comment l'arrestation d'une femme ukrainienne à l'aéroport de Bangkok a entraîné l'arrestation de 14 autres personnes en Égypte, en Indonésie, à Madagascar et en Tanzanie. Interpol se félicite du démantèlement d'un réseau de trafiquants d'animaux, des tortues en l'occurrence, menacées et pourtant retrouvées dans les valises de cette femme en juillet 2022, lors d'une opération de police à l'aéroport Suvarnabhumi de la capitale thaïlandaise. Des tortues crêpes, des tortues étoilées, des tortues géantes, toutes sont sur la liste de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Suivent 2 ans d'enquête qui permettent d'identifier les membres de ce réseau et la restitution in fine des 116 animaux à la Tanzanie, leur pays d'origine. Certains n'ont cependant pas survécu. Ils ont tout de même été rendus aux pays d'Afrique de l'Est. Leurs corps serviront de preuve dans les procès à venir. Un coup de filet rare par son ampleur qui vient contrarier une activité de plus en plus lucrative. Le trafic d'espèces sauvages génère en effet 20 milliards de dollars par an dans le monde, une activité devenue majeure pour les groupes criminels.